passe au-dessus du vide.
Voilà, donc... Donc voilà, merci de nous accueillir et de témoigner de cet accident que tu as accidenté de la vie, disais-tu, que tu as subi. Est-ce que tu peux nous dire dans quelles circonstances tu as été hospitalisé au centre de Nau?
Alors, je sortais de réanimation après avoir passé un peu de temps dans le coma suite à une dissection aortique survenue en mai 2020. Donc, après une petite période de coma, j'étais envoyé à Nau directement.
Ça a été ta première hospitalisation, ça a été Nau.
Ma première hospitalisation était à Limoges, vu que j'ai été opéré à Limoges suite à ma dissection, où j'ai fait mon coma. Et puis après, j'étais orienté vers Nau. Ce qui était, je sais pas comment dire, ce qui était vivement recommandé par... le centre était très recommandé par le chirurgien qui m'a opéré. Mes parents se sont tâtés entre le centre de Nau, qui était plus proche de chez moi, et un centre qui leur avait été recommandé aussi, qui était plus proche d'eux, qui était du côté de Lorient. Mes parents étaient en Bretagne. Au vu de ma situation familiale, en plus j'étais en instance du divorce, mais beaucoup de mes amis étant ici, et puis comme j'ai cette maison ici, c'était plus simple pour mes amis lointains, souvent très lointains même, de venir et d'avoir cette maison comme camp de base pour venir me voir à Nau. Je restais à Nau en cumulé presque un an. Je dis en cumulé parce que je suis arrivé en juillet 2020 à Nau. J'ai quitté Nau pour aller au pôle Saint-Hélier en octobre qui a suivi pour un stage entre guillemets d'un mois pour travailler plus particulièrement ma vue, chose qui me tenait beaucoup à cœur, sans doute au détriment de mon bras, malheureusement. Puis après, je suis revenu à Nau. Jusqu'en décembre 2020. Là, j'avais demandé à quitter Nau, en tout cas pour les vacances scolaires, mais manque de bol. Suite à mes AVC, j'ai développé une épilepsie. Bon, la première crise a eu lieu en janvier 2021 et qui m'a valu un retour à Nau, tout simplement, pendant quelques mois. Donc en fait, on peut dire que j'ai fait trois séjours à Nau. Un premier jusqu'à immédiatement après mon accident et après mon réveil du coma. Et ensuite, à mon retour de Rennes, du retour du pôle Saint-Hélier. Et puis un troisième, après ma première crise d'épilepsie. Voilà.
Tu nous disais là en aparté que l'importance qu'il y avait dans l'accueil des patients. Comment tu témoignerais, toi, avec les différentes expériences que tu as, de la façon dont l'accueil est réalisé, la façon dont tu l'as vécu?
Alors, voilà. Moi, j'ai été reçu dans plusieurs services hospitaliers. J'ai été reçu, comme on disait, à Limoges, dans le cadre de ma dissection aortique. Donc, j'ai été en réanimation. C'est un accueil très professionnel. Il n'y a pas eu de soucis. Après, j'ai été hospitalisé à la suite de ma première crise épileptique à l'hôpital de Guéret. Ce qui est important à mes yeux, c'est l'humanité que j'ai reçue, en tout cas, à Nau. C'était une véritable surprise pour moi de découvrir ce monde que je connaissais absolument pas, de voir l'attention dont on pouvait bénéficier, j'allais presque dire douceur. La douceur, ça serait pas professionnel, mais l'attention dont on peut bénéficier, dont j'ai pu bénéficier à nous. Ce qui n'a pas été exactement le cas à Rennes, et surtout pas le cas à Guéret. Parce que, voilà, en tout cas, à nous, je sais pas comment expliquer, à nous, ils m'ont connu, ils ont suivi tout mon parcours éducatif. Donc, ils ont vu mon évolution, et j'étais encouragé là-dedans. Je pense que c'est le propre des centres de rééducation d'accompagner l'évolution et de l'encourager. Voilà, c'est en tout cas ce à quoi j'ai eu droit dans les deux centres de rééducation que j'ai rencontrés, le pôle Saint-Hélier à Rennes, et puis le centre André Lalande de Nau, avec un petit plus pour Nau, parce que vraiment, comme je vous disais, ils m'ont suivi tout au long de ce parcours, et ils m'ont vraiment accompagné et encouragé.
Quand tu parles d'accompagnement, tu avais un référent, tu avais une personne permanente pour te...
J'avais un médecin et un rééducateur, qui était Fanny Josselin, qui m'a accompagné, qui était le médecin rééducateur. Les médecins rééducateurs, il y en a deux. Il y en a un par attache, peut-être même trois, pour les hospitalisations de jour. Ça, c'est... En tout cas, c'est une personne que je ne connais pas. Mais il y en a un par étage. Et chaque médecin rééducateur a la responsabilité de la rééducation des patients de son étage. Donc moi, c'était Fanny Josselin. Lors de mon premier séjour, j'ai eu droit à Fanny Josselin lors de mon séjour de... J'ai fait quatre séjours, en fait. J'ai fait un séjour qu'on appelle séjour de relance en janvier 2022. Donc j'ai eu Fanny Josselin encore. Donc voilà, c'est la personne qui est responsable de l'éducation.
Tu recevais les explications au fur et à mesure comme tu le souhaitais?
J'avais une visite hebdomadaire le mardi du médecin rééducateur qui faisait un point sur mon état, du médecin rééducateur, du généraliste aussi, parce que on a souvent des pathologies qui sont annexes à celles qui nous amenaient initialement pour la rééducation. Donc il y a besoin de ce généraliste aussi. En tout cas, en fait, d'explications, les explications, on les reçoit plutôt de la part des personnes qui vous prennent en charge au niveau de la prise en charge. Donc, ce sont les kinés, les orthophonistes, les personnes comme ça, les ergothérapeutes. Bon, je vais avoir du mal à tous les citer. C'est eux qui nous font un retour.
Et on peut s'arrêter si tu veux, hein, si tu as besoin de t'arrêter.
Ouais, à un moment, il va falloir que je le fasse. Donc, voilà ces personnes-là. Donc, psychomotricienne. À un moment, j'ai eu une orthophoniste aussi. Psychologue. Ces personnes-là font, en tout cas, un retour en direct, en fait. Ils appuient sur les progrès que vous faites. Puis elles rencontrent aussi le médecin rééducateur. Il me semble que ces routines de points ont lieu de manière hebdomadaire. Je ne suis pas sûr parce que nous, en tant que patients, on n'a absolument aucune visibilité là-dessus. De temps en temps, en tout cas au début du séjour, à la fin du séjour, il y a ce qu'on appelle aussi une réunion de synthèse organisée pour faire le point sur l'évolution de l'état du patient. Moi, j'en ai deux ou trois, je ne sais plus.
Et tu étais présent, donc
là? Oui, j'étais présent. J'étais présent à chacune de ces réunions. Et Donc voilà, ça faisait un point sur l'état d'engorgement, sur ça permettait aussi d'avoir une espèce de retour sur les perspectives qu'on peut avoir. C'est au cours d'une de ces réunions que j'ai compris que ma main, même si mon bras, j'avais beaucoup récupéré de mon bras, que ma main serait une main d'appoint. C'est un truc un peu dur à encaisser, mais c'est là que je l'ai compris. Ou comme l'a dit, je ne me rappelle non plus.
Comment tu as vécu cet épisode avec quelle incertitude, avec quelle... Tu dis que là, tu as compris. Donc, ouais.
Dans quel état mental étais-tu ? L'incertitude, on l'a tout le temps, tout au cours de la rééducation. Parce que ce qu'on cherche, c'est des progrès. Mais c'est très difficile de se mettre des objectifs. En tout cas, à court terme, moi, je me disais qu'il fallait que je marche, absolument. C'est qu'il fallait que je retrouve une autonomie pour la toilette, par exemple. Vous voyez, c'est des objectifs immédiats qu'on peut atteindre. Au début, je me disais, il faut absolument que j'ai des objectifs à long terme. Et puis je me suis rendu compte que je manquais de points de contrôle intermédiaire. Donc le fait de me dire autonomie pour la toilette, autonomie pour la marche, c'était beaucoup plus concret. Et puis je pouvais voir plus facilement les progrès que je pouvais faire que me dire, voilà, il faut que je vois correctement parce que j'ai des problèmes de vision, il faut que j'utilise mon bras. C'était beaucoup trop compliqué. Donc, sur ces objectifs intermédiaires, on pouvait mettre des sous-objectifs. Être capable de marcher pendant de mon lit jusqu'aux toilettes, par exemple. Après, ça a été de marcher dans les couloirs, tout seul sans béquille. Deuxième sous-objectif, faire le tour du bâtiment, encore un autre sous-objectif. Voilà, être capable de faire sa toilette tout seul, c'est un objectif que j'atteins assez rapidement, en complète autonomie. Après, ça a été de manger tout seul, vous voyez, tous ces trucs-là, c'est les deux objectifs qu'on... Il ne faut pas se mettre des objectifs trop lointains. Puis après ces réunions de synthèse, permettez de poser un truc, de voir tous les sous-objectifs qu'on avait atteints, donc se regonfler l'ego avec ça, et voir un peu quelles étaient les perspectives que vous pouvez avoir à plus long terme. Voilà, c'est une de ces réunions de synthèse qui m'a fait dire que, voilà, mon bras, je savais à peu près où j'en étais. Ouais. Et travailler ma vue. Là, j'avais des objectifs plus concrets. Il fallait que je puisse faire cette démarche pour voir quelles étaient mes chances, vu qu'il n'y avait pas de prise en charge sérieuse pour les yeux à nous.
Tu avais des échanges avec des patients qui avaient le même qui avaient aussi subi un AVC?
Alors, je peux vous dire, moi, je suis un champion du monde. Donc, toutes les personnes qui avaient subi des AVC, oui, j'en ai rencontré. Et des personnes aussi jeunes que moi, aussi atteintes que moi, j'en ai pas vraiment rencontré. En tout cas, j'avais des échanges avec les... Et après, c'est un truc... On ne peut pas se comparer les uns les autres. C'est un truc qu'on évite de faire. En tout cas, les progrès des autres nous regonflent. Parce qu'on voit les personnes qui sont au fauteuil et qui, petit à petit, se mettent à marcher, par exemple. C'est un truc extrêmement important. En tout cas, on avait des échanges. Moi, j'ai eu des échanges avec des personnes hémiplégiques. Moi, j'étais un cas unique à nous. Généralement, une dissection aortique, on n'en revient pas. Donc, voilà, j'avais effectivement des personnes qui avaient eu des AVC avec des séquelles un peu similaires aux miennes. Donc, des troubles de la vue, mais pas si grave. Parce que moi, j'ai fait un truc de champion du monde quand même pour la vue. J'ai développé ce qu'on appelle le syndrome de Balin. Il faut avoir un AVC bilatéral dans la zone corticale. Déjà faire un AVC bilatéral, c'est la grosse classe. Personne n'y arrive. Moi, j'y arrive. Et donc voilà. Alors, je suis un cas rare, en fait. Déjà parce que j'ai survécu. Puis ensuite, j'ai développé des trucs de malade. Donc j'étais. Comment on dit ? Ceux qui n'ont plus les jambes, qui n'ont plus les bras.
Tétra.
Voilà, j'étais tétra. En fait, j'ai marché. En tout cas, on m'a donné pour tétra au sortir de mon coma. On m'a donné aussi pour aveugle complet, pour vous dire un peu le chemin parcouru. Et donc, des personnes qui revenaient aussi loin, j'avais connu un peu beaucoup des troubles, hein, des personnes que j'ai rencontrées, vu que j'ai quand même une palette de troubles assez balèze, vu que j'ai des problèmes de respiration aussi. Je me suis réveillé de mon coma avec les cordes vocales collées. Donc il a fallu que je subisse une opération pour redécoller les cordes vocales. Et donc voilà, en effet, il y a quand même des échanges avec les autres patients qui sont extrêmement importants. Important pour le moral, important pour pouvoir déconner aussi, parce qu'on ne veut pas être entouré que de gens qui vous plaignent. Entre patients, on ne se plaint pas. C'est même hyper malvenu. Il y a des patients qui disent « mes petits trucs là ». Tout le monde lui dit « mais t'es con, regarde-moi ». Voilà. Moi, j'ai été hospitalisé avec un mec qui s'était fait amputer des deux jambes. Il avait dit des deux pieds. Il avait dit au moment de sa deuxième opération, il avait dit au chirurgien, vous ne trompez pas, coupez le bon. Alors qu'il n'avait pas d'autre pied de l'autre côté, comme con. Voilà. Vous voyez, il y a ce genre d'humour qui est très reflété par le film qui a fait Grand Corps Malade.
Oui.
C'est un peu, très honnêtement, c'est un peu ambiance troisième âge. À nous, j'étais parmi les patients à ce moment-là, les plus jeunes. Après, c'est vu qu'il y a de moins en moins d'accidents de la route, je pense que les accidents de la route fournissent beaucoup de jeunes au centre de rééducation. Puis en plus, c'était la période du Covid. On était vraiment en plein dedans, donc déjà les gens circulaient moins, ils avaient moins eu l'occasion de se faire mal. Et puis en plus, le centre fonctionnait à demi-jauge. C'est-à-dire que, voilà, on était moitié moins dans le centre. Donc ce qui réduit un peu les possibilités de rencontre. Dans les deux centres que j'ai visités à cette époque, c'était un peu le même cas. Donc à Rennes, c'était beaucoup plus jeune. C'était justement des vieux accidentés qui revenaient de temps en temps pour des séjours de relance. Donc là, on avait des grands accidentés de la route. Donc la population était plus jeune. Voilà.
Bon, tu veux peut-être arrêter. Non, ça va ?
Ça va. Oui, il fallait faire un petit tour aux toilettes, si vous voulez. J'arrête tout de suite.
J'ai fini avec le planche.
Oui. J'ai été surpris d'entendre le mot accompagnement en douceur. Il me semble que pour tout le monde, ce serait très utile que tu puisses en dire davantage sur ce que c'est qu'un accompagnement en douceur au regard des expériences que tu as eues.
Alors comme... Ouais, accompagnement en douceur, c'est vrai que j'ai dit ça. Dans mon cas, en tout cas, qui est peut-être très particulier, ou alors pas du tout particulier, il a été important d'acquérir à nouveau la certitude que j'étais humain. Et comment s'en rendre compte, aussi bien que lorsqu'on est entouré d'humains. Moi, c'est le milieu hospitalier, c'est un milieu que je ne connaissais absolument pas. J'ai jamais été malade de ma vie. Une visite de temps en temps chez le médecin, à tel point que quand j'y allais, je ne demandais même pas le remboursement à la sécu. Donc, parce que je considère que j'en avais pas besoin. Et je me suis retrouvé dans une situation où, c'est pas que j'en étais venu à douter de mon humanité, mais je sais même pas comment exprimer ça, mais où ça me semblait extrêmement important d'avoir un contact vraiment humain avec quelqu'un, où on se sent autre chose qu'un malade. Parce que lorsqu'on a un accident comme ça, on se voit avant tout comme un malade. Mais vraiment. C'est-à-dire que... Voilà, on incarne plus que, qu'une douleur. On incarne plus qu'une souffrance, plus que...
On est réduit à ça.
On est complètement réduit à ça. Donc se retrouver en contact avec des gens qui ne vous voient pas que comme ça, l'accompagnement en douceur, c'est l'accompagnement qu'on peut obtenir d'autres patients, comme tu le disais tout à l'heure, mais c'est aussi surtout de la part des soignants. Pas tout le temps ramené à sa pathologie. C'est quand même con pour un soignant. D'où l'importance du rôle des aides soignantes. Qui sont vraiment le premier contact qu'on peut avoir, le contact au quotidien, à chaque moment de la journée. Ces personnes-là qui sont habituées aux personnes en situation de handicap, mais qui arrivent à vous voir avec des yeux qui ne sont pas les yeux de la pitié ou quelque chose comme ça. C'est pas comme les infirmières qui sont vraiment dans le rôle d'infirmière. C'est vraiment un rôle extrêmement important que celui des aides-soignantes. Je sais pas vraiment.
Il y a une relation très différente entre l'aide-soignante et l'infirmière.
Oui, très clairement. Moi, il me semble. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu.
Ouais.
Et puis aussi avec les soignants, de ceux qui interviennent directement sur tous les soignants dans un centre de rééducation interviennent sur la réadaptation, mais sans doute pas autant que les ergothérapeutes, par exemple. Mais enfin, non, je peux. Il n'y a pas que les ergots. Il y a aussi la psychomotricienne. Moi, dans mon cas très particulier, il a fallu que je me réapproprie mon corps. Chose qui a été faite avec le concours des kinésithérapeutes, qui sont très importants, qui permettent de faire en sorte que le corps reprenne certaines fonctions, comme la marche. C'était vraiment un truc extrêmement important pour moi. Mais aussi se réapproprier le corps. Mon cerveau était tellement touché que je ne savais même plus où étaient mes jambes. Une fois qu'on comprend une fois qu'on a repris conscience de ce corps, il faut le faire travailler. Donc c'est là qu'est l'ergothérapeute intervient. Et c'est un rôle extrêmement important qui permet de voir ce qui est possible de faire avec ce corps abîmé. Donc ça aussi, c'est un accompagnement extrêmement important. Et puis il y a la psy aussi, qui dit pas toujours des trucs à l'âme. Moi je reprochais la mienne à Karine O'Hare qu'elle s'amusait à me faire pleurer. C'est vrai. C'est
Si vous pouvez dire à M. Bimon qu'il faut absolument l'appeler. En tout cas, chacun des soignants auxquels j'ai eu affaire vous renvoie des petits bouts de ce que vous êtes et de ce que des difficultés que vous rencontrez et auxquelles il va falloir vous adapter. Et en fait, la psy, c'est aller que vous balancez, c'est tout, en fait. En tout cas, ouais, c'est... comme je l'ai souvent dit, c'est sans doute, bon certes, l'expérience la plus douloureuse de ma vie. Mais aussi, étrangement, la plus intéressante. Je considère bizarrement ça comme une espèce de chance à la con. C'est un truc dont peut très bien se passer. Mais tu m'as dit tout, je suis relativement content d'avoir vécu. Je peux pas dire ça comme ça. Pas content. Bon, pas content, mais je trouve cette expérience extrêmement intéressante. T'as d'autres questions ?
Vous continuez à avoir des relations avec le centre de Nau ?
Bah, j'y vais vendredi. Ouais, il y a un suivi. Là, je dois aller me faire toxiner la main.
Enfin,
voilà. Comme je me fais injecter du botox, pas par coquetterie, mais pour éviter de la spasticité. Un autre truc aussi, c'est qu'on apprend plein de super mots. Qui vous sont expliqués, et je pense que c'est important de le dire. Des mots comme la spasticité ou plasticité cérébrale, des trucs comme ça, qu'on vous explique et comme ça après. Enfin, moi en tout cas, ça m'a beaucoup stimulé d'apprendre ces mots. Donc, pour éviter la spasticité, qui est le réflexe qu'ont les handicapés, souvent de plier les doigts, d'avoir les doigts complètement recroquevillés, et c'est pas seulement les doigts, ça peut se passer au niveau des coudes. Enfin, partout il y a des atteintes musculaires. Et donc pour éviter ça, donc on me fait des injections. Donc là je vais aller me faire injecter. Sinon, comme je te disais, j'ai fait un 6 jours de relance au mois de janvier, pendant quasiment un mois. Donc pour lancer un peu la machine rééducative. Parce que c'est vrai. Après quelques temps passés à la maison, nos tendances ne pas se laisser aller, mais dire où c'est bon, on n'a pas le bol, faire des efforts, tout ça. Et donc on nous dit de prendre soin de soi en termes rééducatifs. Donc c'est pour se donner un coup de fouet. Et relancer la machine de guerre. Donc voilà. Donc en effet, je suis toujours en contact avec eux. Je suis en contact avec quelques personnes aussi, parce que forcément, il y a des affinités qui se créent. Même, je ne sais pas si c'est parfaitement éthique entre patients et soignants. En tout cas, ouais, j'ai gardé de très bons souvenirs.
Ouais. De là-bas. Bon, merci.
Oh ben oui.
Merci pour
merci beaucoup.
Ce témoignage avec
sincérité, émotion pour nous aussi.